Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Direction la République démocratique du Congo, où les bureaux de vote sont ouverts pour l'élection présidentielle. Après 17 ans au pouvoir, 40 millions d'électeurs sont appelés à élire un successeur à Joseph Kabila. Un scrutin maintes fois reporté depuis 2 ans en raison de risques de flambée de violence. En lice, le candidat de la majorité et dauphin du président sortant, l'ex-ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary, et les deux principaux candidats de l'opposition, Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi, beaucoup pris pour qu'il n'y ait pas de nouveau bain de sang. À Kinshasa, le reportage du correspondant de France Culture en RDC, Anthony Fouchard.
Au Congo, les voix les plus critiques se trouvent à l'église. Et Monseigneur Ambongo n'a pas manqué, au cours de cette messe un peu particulière, d'étrier sans le nommer le régime Kabila.
Certains de nos compatriotes donnent l'impression de vouloir tenir la République démocratique du Congo en otage sous le joug de la provocation, de la violence, de l'insécurité, des pillages de ressources naturelles.
Une messe hautement politique. Au premier rang, l'ambassadeur de l'Union européenne expulsé par le gouvernement. Il a quitté le pays samedi soir. À la sortie de la messe, les fidèles ont a priori bien reçu le message.
On a organisé la violence pour que les choses n'aillent pas dans le bon sens, dans l'organisation soit parfaite, pour dissuader, frustrer les uns ou les autres, pour qu'il n'y ait pas d'élection, pour qu'il n'y ait pas participation au scrutin. Il était bon de le dire.
Le nouveau président entrera en fonction mi-janvier.
Anthony Fouchard, dans le journal de 9h, nous rejoindrons en direct notre correspondant à Kinshasa. Rendez-vous dans 1 heure sur France Culture. Au Bangladesh aussi, des élections ont lieu aujourd'hui. Un scrutin déjà émaillé de violence, 2 morts recensés ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Moscou et Ankara vont poursuivre la coordination de leurs opérations dans le nord de la Syrie après l'annonce la semaine dernière du retrait des troupes américaines. Une décision qui rebat les cartes, poussant les Kurdes qui vivent dans la région à demander l'aide de l'armée gouvernementale syrienne. À Moscou, Jean-Didier Rouvain.
La lutte contre le terrorisme, les questions humanitaires et le retour des réfugiés figurent parmi les sujets abordés à Moscou entre les chefs du renseignement et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, russes et turcs. Le chef de la diplomatie russe a qualifié cette réunion d'utile dans la mesure où Moscou et Ankara ont pu déterminer comment leurs représentants militaires sur le terrain continueraient à coordonner leurs actions après le retrait des troupes américaines du pays. Il s'agit officiellement d'en éradiquer le terrorisme définitivement, mais en réalité, les Kurdes sont au cœur du problème. Lâchés par Washington, ils ont demandé et obtenu l'appui des troupes de Bachar el-Assad pour faire face à une probable offensive turque. Un retournement d'alliance que Vladimir Poutine a jugé positif dans la mesure où pour Moscou, l'expansion des territoires contrôlés par l'armée gouvernementale syrienne aura un rôle important dans le règlement politique du conflit.
Un conflit qui pousse à l'exil des habitants épuisés. Conséquence, le ministre de l'Intérieur britannique a interrompu ses vacances devant une nouvelle vague de migrants. Depuis le mois de novembre, 220 migrants ont traversé la Manche sur des embarcations de fortune. Un phénomène en forte hausse ces dernières semaines que le ministère de l'Intérieur britannique a qualifié d'incident majeur. Sajib Javid devrait intervenir et en s'entretenir avec son homologue français ce week-end pour tenter d'enrayer ce nouvel épisode de la crise migratoire. À Londres, Marina Daras.
Cette soudaine hausse des traversées clandestines serait due à un réseau organisé de passeurs incitant les migrants à traverser la mer le plus tôt possible avant que les frontières ne ferment définitivement après le Brexit. La météo beaucoup plus clémente que d'habitude a également incité de nombreux passeurs à envoyer des bateaux clandestins rejoindre les côtes anglaises. Depuis Noël, 78 migrants, dont des enfants originaires pour la plupart de Syrie et d'Iran, ont traversé la Manche sur des canots pneumatiques. La traversée de la Manche sur ces embarcations de fortune est rendue particulièrement dangereuse par la densité du trafic maritime, les forts courants et la faible température de l'eau. Certains de ces migrants victimes d'hypothermie ont dû être transportés à l'hôpital. Le député responsable du port de Douvres a demandé la mobilisation de plus de navires pour lutter contre ces gangs de trafiquants. Une solution que le ministère envisage tout en craignant que cela n'encourage les migrants à entreprendre une traversée dangereuse, sachant que le bateau sera secouru par les gardes-côtes à mi-chemin et que les personnes à bord pourront demander le droit d'asile une fois sur le sol britannique. D'autres députés réclament quant à eux l'intervention de la Royal Navy avant que la crise ne dégénère en catastrophe.
Marina Daras à Londres pour France Culture. Alexandre Benalla réplique dans le JDD ce matin. L'ancien chargé de mission de l'Élysée annonce qu'il va rendre ses deux passeports diplomatiques. Il les avait utilisés par confort personnel, selon ses mots. Il était un symbole de courage exceptionnel. Le plus ancien des résistants encore en vie, Georges Louinger, s'est éteint vendredi. On l'a appris hier. Il avait 108 ans. Né à Strasbourg en 1910, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce juif orthodoxe, professeur d'éducation physique, avait surtout œuvré pour mettre les enfants juifs à l'abri en les faisant passer en Suisse. Son enterrement aura lieu demain à 14h30 au cimetière du Montparnasse à Paris. Chaque année, la nuit du réveillon est l'une des plus meurtrières sur la route. Si le nombre de morts diminue chaque année, on en comptait encore 17 l'an dernier, les Français ne se sentent parfois pas concernés par les dangers de l'alcool. Les associations Prévention routière et Attitude Prévention organisent des ateliers de sensibilisation aux Halles à Paris. Sarah Cosolino s'y est rendue.
Alors là, je vois tout flou en fait. C'est bizarre, ouais. Tout flou et presque, c'est comme si j'avais la tête qui tourne un petit peu, quoi.
Les lunettes que Sandra a sur le nez simulent la vision dans un état d'ébriété.
Alors, j'y vais ?
Elle se lance dans un petit parcours jonché de plots.
Bah déjà, on n'a pas envie d'aller vite, hein. Bon, je crois que j'en ai bousculé un ou deux déjà.
Pour le nouvel an, elle trouvera une solution pour ne pas conduire.
Je compte boire au réveillon, par contre, je ne prendrai pas de véhicule. C'est-à-dire, je rentrerai... Soit avec des amis, soit en taxi, soit en transport. Enfin bon, bref, je ne prendrai pas la voiture.
Le problème, c'est que les Français n'ont parfois pas conscience de leur état d'ébriété. L'autre souci, c'est la quantité d'alcool qu'on peut parfois vous servir le soir du réveillon.
La dose de tonton Michel, ce serait plus celle-là.
Le verre à vin que tient Emmanuel Christian est presque voilà. Plein.
Là, on est quasiment au double de la dose autorisée. Donc c'est plus deux verres qu'il faut, c'est un verre simplement.
Les Français consommeront en moyenne 4 verres d'alcool lors de la soirée du réveillon, selon l'enquête des associations de prévention routière. Pourtant, moins d'un sur deux envisage des solutions pour rentrer en sécurité, comme désigner un capitaine de soirée qui ne boit pas.
La météo du soleil sur un large quart sud-est dès ce matin, de la brume sur le reste du territoire, les températures de moins 1 à 12 degrés du nord au sud.